Être riche pour être riche, c'est pas ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir une vie agréable. J'ai un de mes amis qui travaille avec lui et qui m'a dit: Hélène, surtout, surtout, faites confiance à Sarkozy, ne le lâchez pas. Il a fait des erreurs comme tout homme fait des erreurs, mais on ne doit pas le lâcher.
Ce bouclier fiscal, c'est un pis-aller.
Les grosses fortunes ont besoin d'avoir une sécurité. Vous ne pouvez pas attraper des mouches avec du vinaigre.
Vous faites un malheureux marché, vous en êtes déjà pour 100 euros, même pas. Hein. Enfin bref, il y a un problème, on ne peut pas être un pays... D'accord, il faut être chrétien, il faut être bon, mais il ne faut pas être crétin et con.
France Inter n'a pas une très bonne presse. Hein. France Inter, maintenant, ça a une connotation mais alors vraiment gaucho. Hein.
Non. Eh ben, c'est là-bas que j'y suis, avec Daniel Mermet et avec Julien Brigot. Au secours ! Nos amis les riches vont s'en aller.
Oui, sixième étage.
Merci. Je suis dans l'ascenseur d'un superbe immeuble de Neuilly. Je vais aller voir Hélène avec un article du Figaro qui explique bien que bah, les riches sont déjà en train de faire leurs valises. Voilà, je vais aller voir Hélène pour un petit peu tâter le pouls de la frange supérieure de la société qui a bien compris que le bouclier fiscal finirait par sauter.
En fait, je vous parce que je me sens... En fait, j'ai à moitié la crève. Bon, alors, je viens vous essayer, j'allume la lumière. Mon appartement est vieux, tout est à refaire. C'est pas un appartement à Neuilly, c'est un très beau appartement. Nous, c'est un petit appartement avec les moyens du bord.
Vous êtes bien, vous avez vu sur...
L'avantage, c'est qu'on est au sixième étage. Donc on a toujours du soleil. Le thé va arriver.
Le thé va arriver.
Vos dents, vous fumez toujours autant.
Vous avez vu?
Parce que vous fumez beaucoup.
En ce moment, je fume beaucoup, ouais.
Oui, et je vais vous dire...
Un peu nerveux, un peu
ça
stressé.
Ça se voit, vous devriez arrêter de fumer.
Je dois avoir des cernes, non enfin, je sais
oui,
pas.
Il ouais, faut avoir une vie plus saine.
Oui.
Moi, j'ai failli crever de la cigarette, alors. Gauloise à 14 ans, donc je sais de quoi je parle.
Ah oui, d'accord.
Elle sait de quoi elle parle, Hélène, concernant la cigarette, mais pas seulement la cigarette. Il y a beaucoup de choses qu'elle sait et qu'elle connaît et qu'elle vit, Hélène. Hélène, c'est une femme de la haute bourgeoisie française de Neuilly, à côté d'ici où nous sommes. Nous sommes dans le 16e arrondissement de Paris, vous le savez, Radio France est là, et donc c'est à côté d'ici. On est allé voir Hélène, vous avez vu, il y a des liens tout à fait amicaux entre Julien Brigot et Hélène. Et bien pour savoir un petit peu ce que vont faire nos amis les riches, la tranche supérieure de la société qui est notre modèle, qui est notre horizon supérieur. En ce moment, ils sont très inquiets. Donc nous sommes, par voie de conséquence, très inquiets aussi parce que suite à ces grèves, ces manifestations, ces blocages de toutes sortes, nos amis les riches risquent tout à fait de partir. D'autant plus qu'il est question, vous avez entendu ça, de supprimer ce bouclier fiscal qui est absolument indispensable si l'on veut préserver richesse, patrimoine, élite et modèle dans un pays qui décline, qui décline, qui décline et qui n'en finit pas. Alors c'est ce que nous allons voir. Mais avant de commencer, je voudrais suggérer au président de la République française, Monsieur Sarkozy, qui se trouve actuellement avec le premier chinois de Chine, je voudrais lui communiquer cette étude du Crédit Suisse. La France est au troisième rang mondial en matière de millionnaires, figurez-vous. C'est un club très fermé. D'après cette étude du Crédit Suisse, dévoilée tout récemment dans le quotidien La Tribune, les millionnaires en dollars ne sont qu'un peu plus de 24 millions dans le monde. Soit, écoutez bien, 0,5% de la population qui dispose de 35,56% de la richesse de la planète. Leur fortune en valeur absolue est évaluée à près de 69 200 milliards de dollars. Et, surprise agréable, sans doute agréable, indéniablement agréable, beaucoup de Français figurent parmi ces très riches. Selon l'étude, 9% des millionnaires résideraient en France, ce qui représente 2,2 millions de personnes. L'Hexagone se place ainsi au troisième rang mondial, loin devant ses voisins européens. Crédit Suisse affirme que l'Italie n'héberge que 6% de millionnaires. La Grande-Bretagne et l'Allemagne, 5%. Les États-Unis concentrent à eux seuls 9,94 millions d'individus, soit 41% de la population mondiale de millionnaires. Mais, et c'est là qu'on arrive à un chiffre très intéressant, le quota tombe à 3% en Chine. Nous avons 9% des millionnaires du monde et la Chine n'en a que 3%. Voilà de quoi bomber un peu le torse et se dresser sur ses talonnettes, monsieur le président. Quant aux riches qui risquent de partir malgré ça, malgré cela, eh bien nous allons en savoir plus d'ici à 15h dans la basse. J'y suis au secours. Nos amis les riches vont s'en aller.
Mais comment allons-nous faire ? Belgique, Espagne ou Angleterre ? Algérie, Écosse ou Mali ? Égypte, Irlande ou Laponie ?
On va descendre dans la rue, lutter contre les lustres crus et la peste et le choléra. La comédie triomphera. Restons donc dans notre gourbie et répandons le rire ici avec nos clowns et nos clodos et nos musiciens du métro.
Je veux partir avec mon chat et mon long manteau d'alpaca vers les beaux Noël éternels, mon beau chocolat. Les quasi-nazis, rêvons au milieu des bergers. N'oublie pas mes petits souliers. Mais comment fuck allons-nous faire ? Belgique, Espagne ou Angleterre ? On va descendre dans la rue, lutter contre les lustres crues. On va descendre dans la rue.
Et non, mais moi, les enfants me le disent. Hein. Même le prix de la vie, maintenant. On peut rien faire. Moi, j'ai un fils qui gagne le SMIC. Il me dit, comment tu fais ? Ben, j'ai dit, oui, tu as eu la chance de naître dans des endroits où on vivait dans le beau. Quand on avait l'acquis, bon, on l'avait l'acquis. Mais maintenant, si on veut acheter une belle maison...
Non, c'est devenu dingue.
Il y a des petits beurres. Maintenant, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez rien.
J'ai une fille de 30 ans aussi.
qui elle monte sa boîte, elle est revenue vivre à la maison. Elle a fait l'histoire à l'Institut catholique à la Sorbonne et après, elle a intégré en deuxième ou troisième année l'EDEC. Hein. Mais même elle, alors elle était payée des clopinettes, toujours en stage dans le luxe, Vuitton, Christian Lacroix, tout le de la haute couture. Et elle dit que c'est pourri et maintenant, elle est sortie de la haute couture. Mais tout ce qui est luxe est très mal payé. Le dernier truc, c'était chez Baby Dior. Je suis une mère de famille privilégiée puisque j'habite un joli quartier, que j'ai la chance d'avoir un mari qui me fait vivre et je ne suis pas obligée de travailler. Je vis, c'est vrai, je fais partie de ces familles qui avaient du patrimoine, des grands-parents qui avaient beaucoup de patrimoine et une vie aisée. Et je pense à mes parents qui sont nés au début du siècle, qui ont connu une vie facile, aisée. Il y a eu la guerre, énormément de changements avec des personnes qui essayent de garder leur patrimoine, qui se battent tous les jours pour essayer, sans revenus, sans nécessairement beaucoup de revenus, qui essayent de garder des vieilles maisons, de jolies choses et qui passent leur temps à être taxés d'une façon injustifiée.
Justement, au bureau, on reçoit le Figaro. On lit assez souvent, moi je lis assez souvent le Figaro. Et là, je suis tombé donc, sur un article qui a été publié il y a une petite semaine, donc mi-octobre, qui s'appelle « Les menaces sur le bouclier inquiètent, les avocats reçoivent de plus en plus de candidats à l'exil fiscal ».
La grande réforme de la fiscalité du patrimoine promise pour juin 2011 va-t-elle rendre la France plus attractive et freiner les exils fiscaux? On peut en douter. Dans les grands cabinets d'avocats, on constate même la tendance inverse. Depuis quelques semaines, les dossiers de délocalisation fiscale se multiplient, note Valérie Arnoua-Mussard, avocate chez Fidal. Le téléphone sonne beaucoup, nous sentons une vraie inquiétude, confirme Cyril Valentin, avocat chez Fresfield. Explication, les ménages fortunés sont convaincus que le bouclier va disparaître, mais que l'ISF, lui, perdurera, même si c'est sous une autre forme et peut-être sous un autre nom. En outre, quand bien même l'ISF serait allégé, la fiscalité sur les plus-values et les revenus du patrimoine augmentera. De fait, le bouclier fiscal ne coûte que 700 millions d'euros à l'État, tandis que l'ISF rapporte près de 4 milliards. Les contribuables regrettent en définitive de ne pas pouvoir accorder leur confiance au système français qui est trop instable, en conclut Luc Jaillet. Sans bouclier, la facture fiscale deviendrait exorbitante pour eux. La Suisse ou la Belgique n'ont pas de soucis à se faire pour attirer les Français. Le Figaro, page Saumon, lundi 18 octobre 2010.
Eh oui, on se fait du mouron dans le Figaro, hein. Ouh, les Français vont partir, enfin les Français, ceux-là, quoi, risquent de partir et de rejoindre la cohorte des expatriés fiscaux et qui nous privent d'un tas de choses, de leur richesse, bien sûr, et puis de leur présence. La preuve, c'est qu'on a été obligé d'aller chercher Alain Delon, qui est résident et citoyen suisse, pour accueillir le président chinois. Alors ça, c'est ce que dit le Figaro. C'est pas tout à fait ce que disent certaines autres gazettes. Par exemple, la Tribune, qui n'est pas vraiment un journal gauchiste, signale que selon un rapport rendu public il y a quelques jours sur le lien entre l'ISF et l'expatriation fiscale, eh bien, premièrement, le nombre de départs de redevables de l'ISF vers d'autres pays reste très faible. Le nombre de départs est passé de 384 à 821 entre 2001 et 2008. Le nombre de redevables à l'ISF est passé de 269 448 à 565 966 sur la même période. Autre constat du rapport, on compte un retour pour trois départs. On oublie de nous le signaler, les retours après les départs. Et troisième constat, l'impact budgétaire et économique des expatriations fiscales des redevables de l'ISF reste stable depuis 2001. Et puis il y a cette bonne nouvelle que je vous donnais en annonçant sur le nombre de millionnaires qui résident en France. On oublie toujours, lorsqu'on est en face de ce chantage à la valise pleine d'euros qui part ailleurs, qu'il y a aussi des gens plein de fric qui résident chez nous. Tout ça, c'est des considérations très générales. Nous sommes chez Hélène, à Neuilly, et nous prenons le thé.
Alors vous me dites que vous-même, vous venez d'une famille avec du patrimoine. Dans votre entourage, vous voyez des gens qui ont de relativement grandes fortunes. Est-ce qu'ils parlent d'exil? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans vos discussions quand vous êtes avec eux?
Ce qui est triste, c'est que notre pays était riche, était un beau pays, et que toutes ces personnes qui ont essayé de garder leur patrimoine, qui ont essayé de garder la France telle qu'elle était, et bien sûr, il faut évoluer, il faut changer, sont de plus en plus inquiets parce qu'ils sont de plus en plus taxés. J'ai un ami en particulier qui n'a pas pu rester en France parce que les impôts étaient tels qu'il était obligé de prendre de son capital. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est vrai que toute la richesse est partie, que donc nous faisons partie de la classe moyenne supérieure. Cette classe moyenne supérieure paye pour tous les autres, parce qu'on ne peut pas non plus sans arrêt payer pour des tas de gens qui font rien. Il y a un problème. On ne peut pas être un pays... D'accord, il faut être chrétien, il faut être bon, mais il ne faut pas être crétin et con. Notre France est en train de devenir pauvre, et c'est triste et grave.
Là, j'ai vu, par exemple, dans cet article, ils disent que beaucoup de personnes aisées ont déjà compris que, finalement, le bouclier fiscal, par exemple, ça va sauter. Est-ce que vous avez cette impression-là? Est-ce que c'est un retour que vous avez, vous, de votre entourage?
Les gens sont sceptiques, puisque, normalement, il était question qu'on retire l'ISF. Déjà, au début du mandat de M. Sarkozy, l'ISF est toujours là.
Vous trouvez que c'est un impôt...
Ça, c'est un impôt qui est complètement injustifié, puisque moi-même, le jour où je... J'habite un appartement de 115 mètres carrés, nous sommes 7. Le jour où j'aurai payé mon appartement, je serai obligée de payer l'impôt sur la fortune, alors que je n'ai même pas eu de place pour loger mes enfants. Nous étions entassés à 110 mètres carrés à 7. Donc il y a des tonnes de choses. L'ISF ne devrait pas jouer sur la résidence principale. Justement, c'est cet impôt qui a fait fuir beaucoup de gens à l'étranger. Et que nous trouvons tous très injuste.
Si vous deviez partir quelque part, vous iriez où?
Notre terre de France est si belle que je ne sais pas où je partirais, parce que c'est vrai que la France est un pays merveilleux. Chaque endroit où vous allez est différent. Je n'ai jamais été en Afrique du Sud, il paraît que c'est un très beau pays. Pourquoi pas? L'Australie, tout le monde part en Australie maintenant, Nouvelle-Zélande, pourquoi pas? Je suis d'origine, j'ai une mère anglaise, donc tous les pays anglo-saxons me tenteraient. Mais bon, je suis un peu vieille maintenant pour partir. Enfin, s'il fallait que je parte, je partirais.
Vous êtes taxé à combien?
C'est pas moi qui gagne ma vie, enfin, je ne me mêle pas. Vous voyez, je suis un peu rétrograde. Je crois que je ne sais même pas ce que mon mari gagne.
D'accord. L'argent n'est pas tellement un souci?
L'argent est une chose excessivement importante, puisque malheureusement, sans argent, vous ne pouvez rien faire. Mais ce n'est pas un idéal pour nous. Notre idéal, c'est notre famille, nos enfants, la nature. Je suis chrétienne, fière de l'être. Et s'il n'y avait que l'argent dans notre vie, nous serions malheureux.
Un nouveau sondage réalisé par l'IFOP pour le journal du dimanche.
RTL.
Sondage réalisé du 14 au 22 octobre. En ce moment, les dates sont importantes.
25 octobre 2010.
Attribue à Nicolas Sarkozy un rejet record avec 29% de satisfaits et 70% de mécontents. On peut dire qu'en termes politiques, le président paie cher sa réforme des retraites.
On peut dire que Nicolas Sarkozy est devenu aujourd'hui la cible quotidienne, majoritaire, obsessionnelle parfois des Français. Il n'est pas le premier président de la République à avoir connu ça. Il y a eu des situations comparables pour François Mitterrand ou pour Jacques Chirac. Il n'empêche que c'est une position qui est extrêmement périlleuse. Nicolas Sarkozy est devenu aujourd'hui quelque chose comme le totem du mécontentement.
J'écoute quelquefois, parce qu'en fait ma femme de ménage met toujours RTL. Donc moi, hop, j'appuie, je tombe sur RTL. Et c'est fou ce que les médias amplifient les choses. Ils font peur, quelque part. Et de toute façon, je crois qu'on a envie de descendre Sarkozy, ça j'en suis persuadée. Mmh. On ne fait rien pour le soutenir. J'ai un de mes amis qui travaille avec lui et qui m'a dit, Hélène, surtout, faites confiance à Sarkozy, ne le lâchez pas. Il a fait des erreurs comme tout homme fait des erreurs. Mais on ne doit pas le lâcher.
Vous, il continue à vous plaire
De toute façon, moi, je l'aime en tant qu'homme. Je trouve que c'est un homme courageux. La France est ingouvernable. La Révolution française, elle est toujours là. Les gens ne sont jamais contents. Je crois que c'est le pays le pire au monde à diriger. Les gens sont tout le temps dans la rue. Les gens ne sont jamais contents. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Vous trouvez ça normal que ma mère anglaise, justement, ne voulait jamais que nous fassions nos études en France, parce qu'elle disait toujours que les universités en France étaient tout le temps en grève, que les cours étaient de gauche, et c'est bien vrai, parce que j'ai vu ça avec les cours d'histoire pour ma fille à la Sorbonne Institut catholique. Mm-hmm. Mais surtout, regardez, ces enfants qui veulent faire des études, eh ben, ils ne peuvent pas aller en cours. Je suis sûre qu'il doit y avoir 12 garçons qui doivent bloquer les ascenseurs et tout est bloqué. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Vous pensez qu'on est dans une espèce de culture de la grève un peu.
Oui, et on est la risée à l'étranger, on est particulièrement connu. Et au lieu d'essayer de s'entraider les uns et les autres pour essayer d'avancer, il y a quelques personnes, parce qu'en fait il y a très peu, qui sont là à mettre la pagaille. De plus, il y a une chose aussi qui nous a beaucoup tous choqués, c'est la CGT qui envoie des SMS aux jeunes pour les inciter à descendre dans la rue. C'est bien dommage, il ferait mieux d'étudier, d'apprendre et d'avancer. C'est ce que tout le monde pense. Mais bien sûr, il y a une minorité qui bloque tout. Et puis, à quoi ça sert, tout ça?
Ouais, c'est,
je fais vraiment extrême droite quand on m'entend.
Extrême droite.
Non, mais c'est vrai que c'est dommage. D'abord, je dis, quand on a la santé, je parle comme une vieille dame. Quand on a la santé, maintenant que j'ai la santé, je me dis, c'est merveilleux. Même quand je nettoie mes carreaux, je remercie le Seigneur parce que je peux nettoyer mes carreaux, je vous l'avais déjà dit.
Et vos parents, ils faisaient quoi, Hélène?
Ma mère fait partie des premières femmes à avoir fait des études brillantes et à avoir travaillé. Elle fait ses études avant la guerre et elle était dans les services secrets aux Indes pendant la guerre. Et ma mère est née aux Indes. Ensuite, elle a travaillé à l'OTAN, elle était interprète. Elle s'est mariée avec un Français. Et le jour où ses enfants sont arrivés, elle s'est mariée tard, elle a décidé d'arrêter. Elle avait un très beau job, mais à l'époque, les femmes restaient, même si elles étaient aidées, pour élever leurs enfants. Et mon père était directeur de société.
Je vais être simple, et c'est un peu délicat.
Patrice Demestre.
Si vous voulez faire quelque chose, il faudrait que ça soit en Suisse.
Liliane Bettencourt.
En Suisse, pas ici.
21 juin 2010.
Et ça me permettrait d'acheter le bateau de mes rêves, voilà.
Le bateau?
Oui, que je voudrais acheter. Pour moi, c'est un immense plaisir, mais je vivrai sans, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes d'accord, je vais voir comment on peut le faire. Il faut que je vois comment je peux faire revenir de l'argent ici.
Alors Hélène, qu'est-ce que vous avez pensé de l'affaire Bettencourt?
Alors mon cher ami, une fois de plus, ras-le-bol. Là aussi, je trouve qu'il y a un manque de pudeur et de dignité. Enfin bon, j'ai suivi ça à moitié parce que je ne suis pas très concierge. Toutes ces histoires m'horripilent. Je ne sais même pas ce qui s'est passé après, ce qui en est. Enfin, la pauvre, je la plains. On est libre de faire ce qu'on veut avec son argent. Par contre, c'est vrai que si elle a été manipulée, je suis d'accord qu'il faut la protéger. Mais voilà. Bonjour. Alors, voilà mon mari. Luc, c'est mon copain que je me suis fait dans la rue. Tu sais très bien que c'est parce que je l'avais trouvé sympa.
C'est sur l'ISF et sur le machin.
Mais non, mais Luc, viens l'aider. En plus, je pars pour le théâtre après.
Mais moi aussi, j'y vais.
Mais moi, je pars tôt parce que je m'occupe de distribuer les billets. Alors, Luc, moi, tu me connais, je suis complètement d'extrême droite. Que toi, tu peux me dire bonjour à Julien,
oui, Luc, oui, oui,
et pas te bloquer, il n'y a rien, rien.
Oui,
attends.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur. Voilà.
Enchanté.
Voilà, et puis Julien se bat, il a son petit boulot, il pourrait être journaliste. Et... Bah, toi, tu serais bien, Luc.
Quoi? Non.
Hein? Sois gentil, Luc.
Oui, non, mais d'accord, mais non.
Pourquoi? Bah, Didier a accepté.
C'est super, mais Didier, il est partie prenante, parce qu'il est complètement...
Non, on te demande ce que tu penses de l'ambiance en France en ce moment. Hein?
Bon, mais j'arrive.
Mon mari est plus cérébral que moi. Bon, moi, je suis quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un, si je peux aider les gens, je suis foutue comme ça. Mon mari n'est pas du tout fait comme moi. Lui, il se dit, bon, je suis patron d'entreprise, qu'est-ce qu'on va encore me... Il n'a pas du tout la même démarche que moi. Voilà. Je rencontre des gens dans la rue, je discute avec eux. C'est ma façon d'être.
Ouais.
Bah, vous avez vu, là, quand je vous ai emmené autour de Neuilly.
Bah oui, 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 on a été voir l'antiquaire,
voilà.
La bijoutière, vos amis.
Bah, moi, je suis comme ça. Hein.
Neuilly-sur-Seine, 14 octobre 2009.
On est ici dans un magasin d'antiquités, on est sous un lustre en bois de serre. Il y a ici des superbes horloges. Puis on est avec Hélène et Juliette, une antiquaire de Neuilly-sur-Seine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce qu'on raconte à propos de Jean Sarkozy à l'EHPAD?
Je trouve que moi, ayant voté pour Jean Sarkozy au cantonal, je trouve le cheminement on ne peut plus normal, d'autant plus qu'il sera secondé par des tiers, sûrement plus à même que lui, vu leur âge. Mais cela dit, n'oublions jamais que son père a commencé à l'âge de 28 ans sur la ville de Neuilly et qu'il a très bien mené sa ville et que nous le regrettons amèrement.
Oui, je suis bien d'accord. On est des conditionnels. Alors,
mais n'oublions pas que Neuilly soutiendra toujours les Sarkozy.
Oui, voilà. On a bien parlé, Julienne.
Ce qu'ils disent, c'est une nomination, etc. On place le fils à papa, alors que tout le monde sait que c'est une élection.
C'est une élection, président de l'EHPAD, ma foi, place aux jeunes. Voilà.
C'est un peu anti-jeune, en fait, ces réactions.
Tout à fait. Parce que c'est la mentalité actuelle et qu'on crie haro sur le baudet, quoi que fasse le père, on crie haro, que oui. Ce soit bien ou mal, et quoi que fera le fils, on criera haro, que ce soit bien ou mal.
Vous l'avez déjà rencontré, non? Comment...
Absolument, c'est un garçon charmant, bien élevé, intelligent, je pense.
Et il a des parents charmants.
Et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il réussisse dans ses entreprises.
Oui. Voilà. Et il a l'âge de mon fils, et je me souviens de mon fils invité au petit goûter. Voilà. Quand il faisait des petits goûters. Oui, ah bon, voilà. Moi, on connaît la famille.
Par contre, j'aime bien les balades de Madame Sarkozy actuelle.
La voilà. Guitare.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est que tu me racontes?
Carla.
Ah oui, moi, j'écoute pas.
Moi, j'écoute Carla.
Mais c'est Carla.
Mais bien. Carla, j'aime bien Carla.
Il y a des chansons de Carla qui me touchent énormément.
Ah, ben, je vais écouter.
Ouais. Neuilly avec les Sarkozy, Forever.
Forever, yes.
Elle fait la une de tous nos journaux. Son disque est d'ores et déjà l'événement de l'année en exclusivité. Les images de l'enregistrement. Avec le déjà culte Bling Bling.
Bling Bling, tu m'as mon string. Bling Bling, je te montre jogging. Bling Bling, c'est toi mon king.
Et avec aussi le futur hit Casse-toi pauvre con.
Je voudrais dissiper un certain malentendu. Son casse-toi pauvre con a été mal perçu, car il s'est emporté dans l'une des allées. C'était juste pour gronder un énorme faisan qui avait hélas chié sur ce bal pompe à gland.
Mais également, les caisses sont vides en duo avec Michel Sardouille.
Il a dit, les caisses sont vides, et moi, je dis, et alors?
Lui, c'est pas le Père Noël, c'est pas non plus Albator. Pour Mère Teresa ou le Pépé d'Emmaüs.
Si tu veux travailler plus pour gagner plus,
sors-toi d'abord les doigts de dedans ton anus.
Tiens, je voudrais prendre une tasse de thé.
Alors,
c'est quoi ça? C'est du salé ou du sucré?
Julien, je passe par là parce qu'il faut que j'aille prendre la voiture par le...
nous attendant, je continue à lire le Figaro. Et puis j'ai vu, selon le Bercy, 821 redevables de l'ISF ont quitté la France en 2008 contre 719 en 2007. Donc la courbe est ascendante.
Ascendante,
quoi.
Oui.
Alors à votre avis, c'est dû à quoi ?
À la mauvaise ambiance qui règne en France. Je ne vais pas vous cacher que nous sommes tous très inquiets d'abord de la grande immigration qui arrive en France. Ça fait partie de la vie, d'accord, mais le problème, c'est que nous sommes un pays qui aidons tellement les gens que dès qu'ils peuvent arriver sur cette terre, ils y arrivent et ils en profitent. Savez-vous que vous allez à Marseille, tous les Africains qui arrivent à Marseille, il y a des agences qui sont spécialisées pour l'aide à l'immigration, c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils donnent toutes les combines, ils connaissent tout. Le problème, c'est que ça nous coûte une fortune. Ce qui ne va pas, ce sont tous ces gens qui arrivent et qui profitent du système. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. J'ai un beau-frère qui est médecin dans le Midi à Perpignan. Je peux vous dire qu'il est plus cool que moi. Et il m'a dit, Hélène, tu ne peux pas t'imaginer le nombre de voitures rutilantes qu'il peut y avoir et le nombre de gens qui sont là, qui profitent du système. Il y a énormément d'argent, enfin, il y a des choses qui ne vont pas. Il faudrait, à mon avis, il faut payer des gens pour aller surveiller un peu et qu'on aille voir dans chaque foyer si vraiment ils méritent un chômage et s'ils méritent telle et telle allocation. C'est comme à La Réunion et dans les pays, la Martinique, on appelle ça l'allocation braguette. Ils ont tous des voitures rutilantes, ils ont tous des allocations logement, ils ont tous... Bon, ça coûte tout ça, mine de rien, ça coûte très cher. Bon, voilà.
On passe à côté de l'Arc de Triomphe. Vous disiez tout à l'heure, je suis une réac de droite. D'où elles vous viennent, ces idées, ces opinions ?
D'abord, on m'a toujours appris à avoir le courage de mes opinions. Je trouve que les gens ne sont pas courageux, les gens ne défendent pas les causes, les gens sont assez pacifiques. Ils ne sont pas très courageux. En fait, je crois que c'est l'exemple. Mon père était comme ça, ma mère est comme ça, je crois que mon grand-père... Enfin, je fais partie de ces familles où on avait le courage de ses opinions. On me disait toujours, vous avez de la chance, par certains côtés, vous devez montrer l'exemple. Oui, je fais partie de la haute bourgeoisie, par les deux côtés. Bon, enfin, qu'est-ce que c'est que les classes sociales ? Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, tout le monde n'est pas à elle. Mais je dis à mes enfants, tout de même, qu'ils ont la chance d'avoir... Enfin, la chance. Qu'il ne faut pas qu'ils renient leur... Ils ont de la chance d'avoir une certaine... Regardez ce que c'est beau, la tour Eiffel d'ici. Regardez.
Ah oui, dis donc, ouais.
Magnifique, hein.
Donc on voit la tour Eiffel, on est sur l'avenue Rapp, et vous écoutez Radio Nova, Hélène.
Oh, ça c'est pas moi, sans les enfants.
Je pensais que vous étiez une auditrice de Radio Nova.
Non, d'abord c'est tellement compliqué, je mets un truc, les enfants le changent. Donc quelquefois je me vois... J'aime bien les trucs où il y a de la musique. Radio Nova. Je ne sais même pas ce que c'est comme Radio Nova.
Bon, c'est musical.
Oui, mais enfin, ça doit être... alors, attendez, je vais me mettre ici. C'est beau, hein ?
Ouais.
Bon.
Allez.
Oui, mais moi, ça vous a intéressé, parce que moi, je vous ai raconté un peu ma vie.
Mais déjà, votre beau-frère, ça va être vachement bien.
Voilà, alors vous allez lui téléphoner. Oui. Vous allez lui dire que vous venez de ma part. Et puis voilà, vous êtes excessivement bien élevé, et vous verrez, il est très gentil. Et il vous dira s'il veut. Par contre, il vous dira s'il veut ou pas. D'accord ?
Bon, je vais l'appeler. Je l'appelle de votre part alors.
Ok ?
Bon.
Bon, Julien, je vous embrasse. J'y vais.
Allez. Bonne soirée, merci.
J'ai des copines qui votent à droite et j'en suis fier. J'ai évidemment, les gens ne me croient pas. Je la sors le soir comme d'autres côtoient des nègres. Montrer que je suis pas figé dans mes idées.
Allez,
chaque week-end, cache dans ses toilettes et les fiévreux, tous ces vieux Figaro. Je rends mon pied, m'excite sur un point de vue de cellière. Vive le fascisme moderne, c'est bien plus propre.
Mais vous voyez mon point de vue, c'est que finalement, je vois pas pourquoi je me crèverais à travailler à la place des gros fainéants qui savent bien faire mieux que passer leur putain de journée devant la télé.
Copine qui va à droite et j'en suis fier. Elle est heureuse, elle ne se pose pas de questions. Je suis un peu jaloux de ma copine MR. J'ose pas penser tout bas ce qu'elle vomit très haut.
Mais arrêtez de gémir et soyez pragmatique. Tout le monde sait bien des richesses, oui. J'ai l'on laisse faire ces tarlous socialo-trotskistes, bientôt le chômage sera à 40%. Alors courage les mecs, copiez tous vos mains. Nous partons en guerre, les doigts mettre en consomme, consommer en vain. Merde à ceux qui restent derrière.
À droite, lui en enfer.
On est dans l'ascenseur du beau-frère d'Hélène, Monsieur Rouliot, conseil en gestion de patrimoine. Bah, on va aller lui demander exactement pour quelle raison les riches sont prêts à se faire la malle.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Entrez. Droite, allez-y.
Alors vous, monsieur Rouliot, donc vous êtes conseil en gestion de patrimoine.
Ouais.
Ça veut dire que vous conseillez des ménages fortunés, pas fortunés, quel est l'autre?
Les deux. Des ménages qui ont un petit peu de patrimoine jusqu'à des grosses fortunes, effectivement.
Vous avez beaucoup de clients qui vous demandent comment s'exiler?
Oui, j'en ai régulièrement. Moi, j'ai surtout des entrepreneurs qui, au moment de partir à la retraite, abordent le problème. Ils sont là, ils se disent, qu'est-ce qui va m'arriver fiscalement? Ils analysent la situation et à partir de ce moment-là, ils en tirent les conclusions de savoir si oui ou non ils restent ou ils partent. J'ai à peu près 380 clients. Il y a, à mon avis, il y a à peu près les deux tiers qui se disent qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus. En permanence, il y a ces changements qui créent de l'instabilité. Ils se sentent pas sécurisés en disant on ne connaît pas la règle une fois pour toutes. Il y a toujours quelque chose qui intervient parce que le politique a décidé que sous l'influence de contre-pouvoirs ou de l'opinion d'une certaine classe. Donc on va remettre encore les choses en question. Ce qui fait la richesse de pays stables comme la Suisse, par exemple, c'est cette stabilité constante où on ne remet pas en question les choses. Voilà. Donc les gens se sentent sécurisés et qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se réfugier là-bas, physiquement ou financièrement. Voilà.
Ils partent où en priorité?
Oh ben, pas très loin, ils vont soit en Suisse, soit beaucoup en Belgique. Ils cherchent pas, et un petit peu au Luxembourg. Donc c'est pas...
Suisse, Belgique, Luxembourg, ouais. Juste à côté.
Ce qui se passe actuellement, et la dernière lutte pour cette réforme des retraites, ne laisse pas présager un avenir très serein en France, en tout cas. Effectivement, moi je peux sentir une certaine inquiétude, surtout dans les patrimoines les plus importants. Parce qu'ils se disent que très fortement, on est en train de remettre en question le bouclier fiscal. Bon, parce que ça sera peut-être inséré dans une réforme plus complète de la fiscalité française pour laquelle M. Sarkozy a annoncé qu'il remettrait à plat, après cette réforme des retraites, la fiscalité française, en s'orientant très vraisemblablement vers une suppression peut-être du bouclier fiscal et peut-être de l'ISF en même temps. Les marchés financiers, les épargnants, les grosses fortunes ont besoin d'avoir une sécurité. Vous ne pouvez pas attraper des mouches avec du vinaigre.
Qu'est-ce qu'on perd exactement s'ils partent, là, les ménages fortunés?
Eh bien, on perd toute une substance de gens qui créent de la richesse. Ils consomment une partie de leur argent. Donc, ils créent toute une mouvance de consommation sur le territoire français. Or, en partant, c'est autant de capacités d'investissement et de consommation qui partent au-delà des frontières. Donc, on perd une substance, on perd de la richesse. Voilà.
Est-ce que vous pensez que dans votre clientèle, il y a des gens qui accepteraient de me parler?
France Inter, maintenant, ça a une connotation, mais alors vraiment gaucho. Hein.
De gauchiste.
Ah ouais. Putain, mais je veux dire, c'est vraiment... C'est même plus de l'information, c'est de la propagande.
C'est très, très
marrant. Ah ouais, parmi toutes les radios, je peux vous dire que c'est celle-là qu'on cite. Hein.
Ah ouais.
Ah ouais.
La plus gauchiste.
Ah ouais, ouais.
Les gens écoutent quoi comme radio en général dans votre entourage?
BFM. BFM, c'est très bien parce que vous avez les news économiques, financières... Mmh. Et on ne se perd pas en conjectures, on n'a pas besoin de savoir ce que le journaliste pense de la situation ou pas. On va avoir les faits et autres. Donc BFM, c'est assez écouté par un pourcentage assez élevé de ma clientèle. Moi, j'ai une grosse partie de ma clientèle qui est dans le Nord.
Ah oui, d'accord. Roubaix, ouais. Tourcoing, tout
ouais,
ça.
Ouais. Ouais. Lille. Il y a des grosses fortunes hein, dans le Nord de la France, ce qui sont là depuis 2-3 générations. Donc c'est facile pour eux, hein. Je veux dire, la frontière, elle est pas loin hein, pour et ces oui. gens du Nord. Elle est à 20 km. Franchir au moment, et c'est terrible, parce qu'au moment de la retraite, ces gens-là, boum hein, oui. N'allez pas poser une question en disant bah, « Est-ce que demain, vous foutez le camp ?» Il va pas vous répondre.
Okay.
Il vous enverra peut-être une carte postale une fois qu'il l'aura fait.
Bon, alors, juste si je pose la question, pensez-vous que l'impôt est devenu trop confiscatoire? Ça, par contre, c'est une question qui pourrait...
Oui, oui. Voilà. Est-ce que, et pour vous, est-ce que personnellement, ça vous touche vraiment beaucoup? Qu'est-ce que vous envisagez un changement quelconque? Ou comment est-ce que vous pensez y remédier?
D'accord.
Ils veulent pas faire de bruit, ces gens-là. Ils veulent pas, hein. Non, mais les gens, hein, ils sont très soupçonneux, hein. Ils font, oui, font vachement gaffe.
Ils sont sur leur garde, vous direz.
Bon, bien sûr.
Ouais. De plus en plus.
Oh ben oui, le contexte aujourd'hui, il est quand même pas serein en France, hein. Surtout après ce qui vient de se passer pour cette réforme des retraites. Vous, enfin, je veux dire, ce qu'on entend, entre autres sur France Inter, je veux dire, c'est pas, hein, c'est un peu, je vous dis, c'est pas là, c'est pas du temps de la Révolution française, mais enfin, on en est, pour eux, on n'est peut-être pas, on n'est pas si loin de ça, quoi.
C'est de la propagande.
Ah ouais, ouais, c'est, ouais, 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 on peut appeler ça comme ça.
Allô.
Allô, Hélène.
Oui, bonsoir Julien.
Bonsoir.
Ça va bien?
Comment allez-vous?
Bien, très occupé, mais je vais bien.
Bah, je voulais vous donner des nouvelles par rapport au reportage. J'ai pu aller voir votre beau-frère, Didier.
Bon, très bien.
Bah, il m'a confirmé ce que vous disiez, c'est-à-dire que les ménages fortunés se sentent complètement acculés, que c'est toujours des impôts et des taxes, et que c'est l'instabilité qui crée le désir de partir, quoi, de quitter la France.
Oui, c'est bien. Et puis en plus, il s'exprime bien, donc c'était bien ça.
Eh oui, pour les grands industriels du Nord, c'est pas compliqué de faire 20 km pour continuer à avoir le même style de vie et puis d'être beaucoup moins taxé, quoi.
Oui, oui, oui. Non, mais j'étais sûre parce qu'en plus, il est adorable. Ouais, tant vraiment... mieux. Alors, ça, c'est positif.
Oui, c'est ça. Moi, ce qui me plairait, alors je ne sais pas si c'est possible, mais si vous connaissez des gens en Suisse...
Oui, mais là, ils vont refuser de parler. Hein.
Ah bon, vous croyez?
S'ils sont en Suisse, ils n'ont pas tellement envie que le gouvernement français leur tombe dessus.
Ah oui, oui, oui.
Moi, je me souviens quand Mitterrand est passé. Hein. La panique avec les comptes à l'étranger, la mauvaise ambiance. Enfin, pour beaucoup de gens, ça a été l'horreur. Hein. Bon, ce que j'ai fait, parce que là, il faut que je m'occupe du dîner, je vais mettre un mail à mes deux beaux-frères.
Eh ben, un grand merci, Hélène.
Allez, au revoir, Julien.
Au revoir, bonne soirée.
Merci.
Chouette, on aura une suite. Merci à tous. C'était un reportage de Julien Brigaud. Merci à Hélène, à son mari, à sa fille, à Didier Rouliot. Et puis à signaler le bal de l'Afrique enchantée avec Solo Soro et Vladimir Cagnolari de France Inter. On y dansera. Ce sera absolument formidable demain, samedi 6 novembre, au Cabaret Sauvage, Parc de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. Toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Guillaume Roux, Koye Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot et Marina Touillez. Attends vos messages sur le répondeur de la basse J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.